La grande différence avec Genève, c'est qu'à Astana, ce sont les groupes rebelles, les groupes militaires qui sont invités en priorité. Ce qui n'était pas le cas à Genève, on avait seulement Jeish al-Islam, un groupe de la région de Damas qui était invité. Là, on a 27 groupes rebelles qui sont invités. Alors évidemment, il n'y a pas l'État islamique ou Fatah al-Sham, c'est-à-dire la branche aérienne d'Al-Qaïda. Il manque également un groupe proche de Fatah al-Sham, c'est-à-dire Ahrar al-Sham. Mais sinon, la plupart des autres groupes sont représentés. C'est-à-dire que les Russes souhaitent obtenir un accord militaire pour pouvoir ensuite obtenir un accord politique. Alors qu'à Genève, on cherche depuis le début en vain à faire le contraire.
Et est-ce que cette solution-là a, selon vous, plus de chances d'aboutir ?
Bah oui, il a beaucoup plus de chances d'aboutir qu'à Genève. On est un gouvernement syrien en face d'une opposition syrienne qui n'a aucune légitimité et aucun levier sur le terrain, puisque même si à Genève on obtenait un accord politique, il faudra ensuite le faire accepter par les groupes militaires. Or, les groupes militaires détestent l'opposition politique, donc ça avait peu de chances d'aboutir. En plus, les positions de la coalition nationale syrienne sont extrêmement radicales par rapport au régime syrien, changement de régime, départ d'Assad, et ça, c'est inacceptable, évidemment, pour le camp gouvernemental, d'autant plus que le camp gouvernemental, aujourd'hui, il est en position de force. Il a repris Alep, il est en train de reprendre toutes les poches autour de Damas. Donc on ne voit pas pourquoi il ferait des concessions à des gens qui en plus ne sont pas représentatifs. À Astana, les rebelles n'ont guère de marge de manœuvre, hein, puisque les Russes vont leur faire une proposition assez claire, c'est-à-dire soit vous rejoignez le régime, vous aurez l'amnistie, on vous donnera un peu de pouvoir, vous pourrez profiter de l'argent que vous avez accumulé pendant la guerre en toute quiétude, ou alors si vous ne vous soumettez pas selon ces conditions, eh bien vous serez éliminé. C'est un peu ça le principe de la réunion d'Astana.
Finalement, ce ne sera pas forcément une négociation, mais plus une porte de sortie qui serait ouverte aux groupes rebelles présents.
Alors, une négociation dans le sens où un partage du pouvoir entre le régime syrien et puis les rebelles, non, ça, il n'en est absolument pas question. En revanche, une négociation sur comment coopter certains groupes rebelles, comment négocier votre exfiltration de la région que vous occupez si vous ne voulez pas être éliminé, comme c'était le cas autour de Damas à Dalaya, par exemple, là, oui, c'est ce qui va se produire.
Alors, vous avez parlé du choix des groupes qui étaient présents. De quoi est-ce que ça témoigne, ces choix-là ?
Alors, ceux qui sont exclus, ce sont les groupes djihadistes. Donc, il y a des groupes islamistes qui sont représentés, même salafistes. Jeish al-Islam, c'est un groupe islamiste salafiste. Tous les autres groupes sont des groupes islamistes. Il n'y a guère que quelques résidus de l'armée syrienne libre, comme la division 13, qui ne sont pas clairement islamistes. Ce sont en fait des groupes qui sont financés par la Turquie. Comme la Turquie était rapprochée de Moscou, eh bien, elle a évidemment invité tous les groupes qu'elle soutenait à venir à Astana, sinon elle leur coupait les vivres. L'Arabie Saoudite en a fait de même. Jeish al-Islam est un groupe qui est soutenu par l'Arabie Saoudite. Alors les Kurdes du PYD n'ont pas été invités à la demande expresse de la Turquie, qui le considère comme un groupe terroriste. C'est pour cette raison que la Turquie intervient en Syrie, pour les empêcher de réaliser l'unité territoriale des régions kurdes. Et donc pour la Turquie, il n'est pas question de voir ce groupe kurde représenté à Astana. Elle n'en voulait déjà pas à Genève. Mais il faut savoir qu'à Genève, les Russes ont insisté pour que le PYD soit présent. Là, évidemment, ils n'ont pas insisté pour qu'il soit présent à Astana. En revanche, vous avez d'autres petits groupes kurdes qui ont été invités à Astana, le PDK, le Parti démocratique du Kurdistan, mais qui n'a pas beaucoup d'influence sur le terrain syrien. Et comme il fallait représenter les Kurdes, eh bien, on a choisi de représenter en fait, des Kurdes plutôt pro-turcs.
C'est-à-dire que finalement, il y a quand même un soutien de la Turquie et de la Russie qui parrainent ces négociations, mais la Turquie et la Russie n'ont pas non plus les mêmes objectifs finaux et les mêmes objectifs en soutenant cette négociation.
La Turquie, aujourd'hui, son principal objectif, c'est d'éliminer le PYD kurde du nord de la Syrie, ou tout du moins tronçonner son territoire pour l'empêcher de construire un État kurde dans le nord du pays qui pourrait donner des idées, évidemment, aux Kurdes de Turquie. Et pour cela, elle s'appuie sur des groupes rebelles, qui sont essentiellement composés de Turkmènes, d'ailleurs, du nord de la Syrie, pour occuper les territoires qui sont entre les zones kurdes. Ça, c'est l'objectif principal de la Turquie. Plus avoir une influence sur le nord de la Syrie, participer à la négociation de paix et à la reconstruction, parce que les entreprises turques, évidemment, sont intéressées par le marché de la reconstruction en Syrie. La Russie, elle veut clairement soutenir le régime d'Assad, renforcer le régime d'Assad pour qu'il puisse rester au pouvoir, faire de la Syrie une base militaire. On voit qu'elle a installé des bases à Latakié, à Tartous, elle va rénover la base sous-marine de Jablé. L'objectif est également, à plus long terme, d'encercler la Turquie, l'empêcher de devenir le carrefour énergétique qu'Erdogan souhaitait construire, ou alors non pas un carrefour énergétique, mais plutôt un débouché énergétique des gazoducs et des oléoducs venant de Russie, donc un pays qui soit soumis à la volonté russe en matière énergétique. Et puis l'autre objectif des Russes, c'est montrer leur hard power dans la région, pour notamment faire pression sur l'Arabie Saoudite, le régulateur mondial des cours du pétrole, parce qu'avec un baril de pétrole à $30, comme c'était le cas en 2015, le régime de Vladimir Poutine avait beaucoup de difficultés. 50% des exportations russes, c'est le pétrole, 20% c'est le gaz. Si le prix des hydrocarbures ne remonte pas au-dessus de $70-80, c'est extrêmement difficile pour la Russie. Donc ça explique aussi l'intervention russe en Syrie, son alliance avec l'Iran, pour faire pression sur l'Arabie Saoudite.
Il y a un troisième parrain, c'est l'Iran, et puis il y a aussi plusieurs pays arabes qui sont impliqués dans le conflit, qui seront présents. Ces pays-là, qu'est-ce qu'on peut en dire ?
Arabie Saoudite, Qatar, c'est extrêmement important parce qu'ils soutiennent évidemment financièrement les groupes rebelles. Donc l'objectif de l'Iran et de la Russie, c'est qu'ils arrêtent leur financement. Un pays comme la Jordanie ne soutient pas les rebelles, mais il a été la base arrière pour les rebelles syriens. Et depuis septembre 2015, il y a un accord entre la Jordanie et la Russie. La Jordanie ne veut pas voir arriver 1 million de réfugiés supplémentaires sur ce terrain. On a l'Égypte qui est présente. L'Égypte a déjà envoyé des conseillers militaires en Syrie, notamment des pilotes d'hélicoptères, pour aider le régime syrien, parce que finalement, Sisi partage les mêmes intérêts que Bachar el-Assad dans l'élimination des groupes islamistes qui menacent évidemment son régime. Bon, en Syrie, c'est plutôt les salafistes. En Égypte, c'est plutôt les frères musulmans. Mais c'est clairement l'alliance des régimes autoritaires contre les groupes islamistes. Enfin, on a l'Iran. L'Iran, il s'est fait discret, parce qu'évidemment, il laisse à la Russie le rôle géopolitique, le rôle diplomatique. L'Iran soutient le régime syrien depuis le départ, financièrement, militairement. Donc l'Iran va partager la Syrie avec la Russie, c'est ce qui va se passer à terme. Il y a un modus vivendi entre les deux. La Russie s'occupe plutôt du nord de la Syrie et de la côte, et l'Iran est plus présente dans la région de Damas, dans le sud, vers le Golan.
On a parlé des pays qui seront présents. Il y a aussi les pays qui ne seront pas là, et entre autres les États-Unis. Il y aura l'ambassadeur des États-Unis au Kazakhstan, mais sinon pas de délégation. Est-ce que c'est un hasard si cette conférence se déroule quelques jours après l'investiture de Donald Trump?
Non, ce n'est pas un hasard. Vladimir Poutine a choisi la date du 23 janvier de manière très précise. Il veut tourner la page Obama, repartir sur de nouvelles bases avec Donald Trump. Donald Trump beaucoup plus réaliste, beaucoup plus favorable à un rapprochement avec la Russie. Et c'est aussi après sa victoire à Alep. Donc, une fois Donald Trump désireux pour finir sur le dossier syrien. Alors, par contre, il n'a pas voulu envoyer de délégation depuis Washington, parce que Donald Trump est chahuté en ce moment par le Congrès, par la CIA, avec des accusations d'avoir cédé au chantage de Moscou, d'être influencé pour Moscou. Donc, pour l'instant, il va faire profil bas. Il ne va pas se précipiter à Astana, parce que là, ça voudrait dire qu'il donne raison à ses détracteurs. Mais de toute façon, ce n'est pas très grave pour Poutine, puisque cette première grande réunion d'Astana est surtout destinée à imposer un diktat au groupe rebelle. Les États-Unis ne vont pas apporter à Washington une voix discordante.
Une dernière question, pourquoi ce choix d'Astana? On sait qu'il y avait déjà eu des petites conférences en 2015. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ce choix?
L'initiative d'Astana a commencé modestement en mai 2015. Quelques opposants syriens, plutôt pro-Moscou, il y a eu ensuite une autre réunion en octobre 2015 avec à peu près les mêmes personnes qui n'étaient pas destinées à critiquer le régime syrien, mais à créer une délégation pour Genève. Le but essentiellement était de diluer la coalition nationale syrienne lors des conférences de Genève. Aujourd'hui, que la Russie a ses victoires en Syrie et donc lancé des négociations avec l'opposition militaire, eh bien, elle se sert d'Astana pour pouvoir négocier sur de nouvelles bases. Astana, c'est la capitale futuriste du Kazakhstan, qui contraste avec la vieille Genève, avec son palais des nations Art déco. Il faut aussi impressionner les groupes rebelles. Et je pense que dans les palaces d'Astana, ils seront impressionnés par la puissance kazakh et par conséquent la puissance russe. Astana, c'est une ville qui se trouve au centre de l'Eurasie, hein, de cette axe Russie-Chine, qui aujourd'hui monte en puissance hein, et qui va sans doute régler la crise syrienne à ses conditions. On a un déplacement de la géopolitique, de la résolution des crises de l'Europe de l'Ouest, de New York, vers le centre de l'Eurasie, ce qui montre bien ce rééquilibrage du monde au profit de l'axe Russie-Chine.